La première fois qu'elle est montée sur scène, elle n'avait pas 20 ans. Aujourd'hui, elle en a 37. À l'époque, elle venait d'arriver à Paris, seule, donc un peu déboussolée, sans sa sœur ni ses parents. Noémie Merlan est dans Totémique aujourd'hui.
Je me sentais vraiment en vie, beaucoup plus sur le plateau que dans la vie. Paradoxalement, je me disais moins « il faut que je plaise » parce que je jouais un personnage, donc c'était pas moi. Donc en fait, je pouvais faire et être ce que je voulais.
Alors, contrairement au mannequinat, pour le coup.
Contrairement au mannequinat, et puis même dans la vie, où j'ai toujours peur de dire un truc qui blesse, ou de faire une blague qui n'est pas comprise, ou de dire une bêtise. Donc en fait, à l'époque, je me sentais beaucoup plus libre quand je jouais.
Céline Dion, Lara Fabian, quand elle était gosse, elle voulait chanter comme ces deux-là, peut-être parce qu'il y avait la place pour les grands sentiments. Mais chanter en public, Noémie Merlan n'y arrivait pas. On se planque mieux grâce au personnage quand on est comédienne. Et son jeu et son nom se sont imposés à la fin des années 2010 avec Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. L'amour entre une peintre et son modèle féminin à la fin du XVIIIe siècle. Dans le parcours de Noémie Merlan, le désir est l'un des motifs qu'elle a souvent interprété jusqu'à son rôle dans Emmanuel, personnage de roman et de film érotique, dont la cinéaste Audrey Diwan et elle ont proposé une version nouvelle il y a 2 ans. Noémie Merlan a joué aux côtés de Kate Blanchett dans Tar, aux côtés de Kate Winslet dans Lee Miller, et la voici dans un film italien. Douze, portrait d'Eleonora Douze, une des plus grandes comédiennes du siècle dernier. Noémie Merlan m'a donné rendez-vous dans le cinéma de son quartier, le Méliès, à Montreuil. Il sera beaucoup de questions de famille dans la conversation qui suit, sans doute parce qu'elle est en train d'en fonder une à son tour. On s'assoit et elle me dit « J'habite ici depuis peu de temps ».
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Vous venez d'où au départ ?
Je viens de... Je suis née à Paris, mais on est parti tout de suite avec mes parents à Rezé, c'est à côté de Nantes, Loire-Atlantique.
Vous avez aimé ?
J'ai aimé mon enfance, ouais. J'ai des bons souvenirs et je vais parfois en pèlerinage à Rezé.
En pèlerinage ?
Ouais, parce que il y a eu un tournant radical dans ma famille à partir du moment où on a quitté Rezé, que moi je suis retournée à Paris à 17 ans. Ils m'ont suivie un an après. C'est là où mon père a eu son accident et qu'il y a un peu toute la vie qui a changé. Et donc, quand je repense à Rezé, je repense à aussi la vie d'avant, quoi. À Rezé, on avait, oui, une vie plutôt simple, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans un monde complètement différent. Et à Paris, enfin là, à Montreuil, mais dans le milieu du cinéma, dans le milieu de quelque chose qui fait, en tout cas, rêver dans nos imaginaires. Donc, quand je retourne à Rezé, je sais pas, comme si ça me permettait de recréer un lien avec qui j'étais, qui je suis, avec ma famille aussi, qui elle était, qui elle est encore, mais voilà, c'est toujours très émouvant pour moi. Et je rêve tout le temps, en fait, de cette maison, mais en permanence. C'était une petite maison en centre-ville de Rezé. Et j'en rêve, mais je sais pas combien de fois... Parfois la maison brûle, parfois la maison est devenue immense, alors que c'était une toute petite maison, mais j'y retourne et elle est devenue immense. Parfois elle est inondée, parfois j'y retourne et je vois vraiment tous les objets qu'il y avait et dans ma chambre et tout. Donc oui, c'est quelque chose qui compte, cette vie d'avant.
Vous avez dit c'était avant l'accident de mon père. C'était quoi cet accident ?
C'était un accident vasculaire cérébral. C'est vraiment pas de bol, on n'a jamais su vraiment pourquoi. Et maintenant, il est en fauteuil, alors qu'il était très sportif, hygiène de vie irréprochable et tout, mais bon, voilà. Et en fait, vu qu'ils travaillaient ensemble, mes parents, enfin, c'était vraiment un petit cocon, ils avaient leur petite agence.
Une agence de quoi ?
Immobilière. Et ensuite, ils m'ont suivi, ma sœur aussi. Ouais, on a tendance à être très clan. Bah là, d'ailleurs, ils viennent d'aménager à Montreuil. Parce qu'avant, ils étaient à Paris comme moi. Maintenant, ils ont déménagé à Montreuil parce que je suis à Montreuil.
Ils vous suivent, quoi.
Oui.
Il y a un geste que vous avez eu quand vous avez parlé de votre famille et de cette maison à Rezé. Vous avez serré le poing. Vous avez dit, ouais, comme si, bah oui, aller là, c'était un truc solide. C'était se retrouver. Ouais.
Et il y a un autre geste que vous avez eu, parce que vous parlez aussi avec les mains. Ouais. Quand vous avez dit rêver, vous avez fait des guillemets de rêver de cinéma. Vous n'avez pas vraiment rêvé de cinéma, vous ?
Bah, à l'époque, non, parce que quand je rêve, j'aime bien que ce soit des rêves faisables, enfin accessibles. Et je pense que quand j'étais jeune, ça me paraissait complètement inaccessible. Donc, j'y ai même pas pensé, j'y ai même pas rêvé. Mais quand je mettais les guillemets pour rêver, c'est qu'il y a des gens qui rêvent pas du tout au cinéma. Enfin, c'est pour ça. Donc,
dont vous au départ.
Dont moi au départ. Et le point serré, j'imagine que c'est. J'ai eu une base solide dans mon enfance, grâce à mes parents notamment. Enfin, j'ai des parents qui sont assez forts, quoi, malgré tout ce qu'ils vivent depuis le début de leur vie. Ils sont, ma mère aussi, elle est. Du coup, elle s'occupait de mon père et de ma sœur pour d'autres complications. Et du coup, ouais, j'ai deux exemples de personnes qui se battent, quoi. Mon père, c'est pareil. Malgré son handicap, il est positif, il fait plein de choses, malgré le fait qu'il soit complètement invalide, mais il est toujours positif.
Comment est né le rêve du cinéma, alors ?
En fait, il n'est pas né en tant que rêve, dans le sens où c'était plutôt des choses concrètes. J'adorais faire des spectacles depuis toute petite. Je faisais du chant, je faisais de la danse. C'était des trucs pas terribles, attention, hein, mais c'était vraiment des trucs un peu cheap. Mais j'éprouvais vraiment ce besoin-là. J'ai jamais été quelqu'un qui parle beaucoup, petite aussi. Et c'est comme ça que je m'exprimais avec les gens, y compris la famille. Mais c'est un jour, quand j'ai voulu continuer mes études après le bac, faire une école de commerce ou choses comme ça, parce que c'est là où j'étais bonne à l'école, quoi. Et mon père m'a dit, les études, tout le monde se dirige vers fac de école de commerce sans savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous. Donc il m'a dit, va à Paris. J'avais des opportunités pour gagner un petit peu d'argent dans le mannequinat. Et en même temps, il me dit, tu devrais en profiter pour aller faire cette école au cours Florent. J'ai lu un article dans le journal. Nous, on n'était jamais allés au théâtre qu'avec mes parents, quoi. On avait vu une fois Starmania, et, qui était plutôt une comédie musicale. Donc, je ne sais pas. Et je pense qu'il avait un peu un don pour essayer de déployer un peu ce que les... Parce qu'il a fait ça avec beaucoup d'autres jeunes de la famille. Il nous questionne sur ce qui nous plaît. Et donc, il savait que j'aimais le spectacle et tout. Donc, il a dit, tu devrais essayer. Moi qui suis timide, en plus, encore plus à l'époque. Mais j'y suis allée, je l'ai écoutée. Et ça a été une révélation, en effet. Et pourtant, mes parents ne sont pas du tout... viennent pas du tout de ce milieu-là. Donc, je ne sais même pas pourquoi il s'est dit théâtre. Mais
et c'est super rare. 9 fois sur 10, quand on rencontre quelqu'un qui a fait un parcours artistique de comédien ou de musicien, 9 fois sur 10, on dit « Oh là là, mais mes parents étaient complètement flippés, ils voulaient pas. » Enfin, c'est plutôt ça, le récit en général. Là, c'est quand même assez... oui, c'est plutôt exceptionnel.
Oui, parce que mon père, c'est un autodidacte. Il a pas de diplôme et il a fait... il avait fait une belle carrière quand même, sans rien, quoi. Enfin, il avait réussi sa vie juste avec sa volonté, sa débrouille, sa... Puis il a le goût de la prise de risque aussi. Et ma mère, elle a été d'accord avec lui. Techniquement, après, c'est elle qui aidait pour dire « Ok, là, on va organiser ça comme ça. » Ils étaient très présents, quoi. Même si je suis partie seule au départ à 17 ans, ils étaient extrêmement présents, quoi.
Comment s'est passée votre arrivée à Paris ?
Ah, c'était très étrange, parce que moi, qui suis provinciale, comme on dit, bah là, je me retrouvais... à Pigalle, je me souviens, j'avais emménagé à Pigalle parce que c'était. Il y avait un petit appart que je sous-louais. C'était étrange, je suis partie vraiment du jour au lendemain, j'ai pas réalisé en fait que je partais de chez moi. Et j'ai tout de suite été prise dans la spirale du travail, du mannequinat. En fait, je côtoyais du coup que des adultes dans le milieu du mannequinat. Je me suis dit, oh là là, moi qui pensais que les adultes, parce que j'avais en référence mes parents, étaient des gens plutôt. Bah, positif et sain et qui prennent soin, qui machin. Là, je suis tombée vraiment sur des... Enfin, pas tout le temps, mais quand même souvent sur des gens mal attentionnés, quoi. Donc mes parents sont très vite arrivés pour justement pas que... Voilà, que ça se passe bien. Parce que c'est vrai que même eux, ils ont été étonnés de voir comment on pouvait traiter des jeunes femmes. Là, je parle surtout du milieu du mannequinat, mais même dans la rue, je me souviens, à 17 ans, j'étais tout de suite très emmerdée, quoi, sur le chemin, là, le soir, quand j'entrais chez moi. C'était tout nouveau, du coup, pour moi, et c'était assez... Mais en même temps, il y avait l'excitation d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie, d'une liberté. Et puis j'ai commencé les cours Florent, et là, ça a été la passion absolue. Et ça y est, j'avais mon objectif, quoi. J'aime bien avoir des objectifs précis. Et j'avais mon objectif, et à partir de là, je peux m'épanouir, quoi.
Et à quel moment, puisque vous avez suivi les cours Florent, il y a l'idée d'avoir cette révélation dont vous parlez, mais à quel moment vous l'auriez eue, si je puis dire ? C'est-à-dire, à quel moment vous vous êtes dite, OK, ouais, là, je suis à ma place ?
Je me suis dit ça presque tout de suite. Et d'ailleurs, moi qui étais timide sur le plateau, je ne l'étais plus. J'étais vraiment, je me sentais vraiment en vie, beaucoup plus sur le plateau que dans la vie. Donc en fait...
Ah ouais ?
Oui, parce que sur un plateau, on est vraiment dans le ici et maintenant. On travaille sur le fait d'être vraiment en connexion avec soi, avec l'autre, avec l'atmosphère, avec les mots, avec notre corps. Dans la vie, souvent, on est là à se dire « qu'est-ce que j'ai fait ? Mince, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ?» Enfin, c'est finalement, je me sentais, oui, plus en vie sur un plateau. Paradoxalement, je me disais moins « il faut que je plaise » parce que je jouais un personnage... Donc, c'était pas moi. Donc, en fait, je pouvais faire et être ce que je voulais.
Alors, contrairement au mannequinat, pour le coup.
Contrairement au mannequinat, et puis même dans la vie, où j'ai toujours peur de dire un truc qui blesse, ou de faire une blague qui n'est pas comprise, ou de dire une bêtise. Donc, en fait, à l'époque, je me sentais beaucoup plus libre quand je jouais. Donc, en fait, c'est dès le départ, je me suis sentie bien, et je n'ai même pas re-questionné ça. Je me suis dit, voilà, j'étais là, et j'étais bien là, et c'était là qu'il fallait que je continue d'être, quoi. Et ensuite, mon père a eu son accident donc très vite quand j'étais au cours Florent, quand il était donc dans le coma. Je continuais d'aller au cours Florent quand même, et d'aller le voir, et d'aller au cours Florent. Et en fait, dans mon jeu, il y a un truc qui s'est déployé. Alors, je ne suis pas en train de dire « vivons des trucs terribles pour pouvoir être bon acteur », pas du tout, mais ça m'a aidé. En fait, ça a été aussi une thérapie à ce moment-là de jouer. Je ne pouvais pas ne pas jouer parce que justement, j'arrivais pas à pleurer dans la vie, tout était bloqué. J'avais peur, mais en même temps, j'essayais de soutenir tout le monde pour pas que tout le monde craque, quoi. Donc,
vous êtes l'aîné ?
Non. Et donc, je me suis retrouvée à justement évacuer plein de choses et à transformer ces larmes et ces peurs et tout ça en une création, en une interprétation de scène et tout ça. Et ça. C'était un exutoire et en même temps, je me disais, ah, ça sert à quelque chose, tout ça, finalement. Parce que sinon, l'idée de me dire tout ça, c'est horrible et ça sert à rien, je pense que c'était trop dur. Et là, au moins, je transformais un peu la douleur en quelque chose, quoi.
Pour sa carte blanche à la fin de l'émission, Noémie Merland a choisi de me montrer des vidéos de son père quand il était jeune, avant son accident. Elle en a sélectionné plusieurs et m'a dit, vous choisirez. Vous entendrez donc une de ses vidéos à la fin de ce totémique, mais comme il a déjà été question de cet homme et qu'il en sera à nouveau question, voici un premier extrait. À l'image, je dirais qu'il a une trentaine d'années et il fait un stage de formation en entreprise. On lui demande d'improviser, comme un acteur, profession pour laquelle cet homme s'est dit que sa fille pourrait être heureuse si un jour elle l'exerçait.
Vous savez, on m'a demandé de parler de la caméra. Eh bien, moi, je n'ai pas en parlé. Parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer, il nous embête depuis hier avec son gros œil tout noir, là, le centre un petit peu du débat, mais non, ce serait trop facile. Bon, vous allez me dire, moi j'ai plein de films à la maison sympas, je suis très heureux, mais la caméra c'est bien. La caméra peut-être, mais celle-là en tout cas, non, moi je ne suis pas d'accord. Alors, on va parler doucement, même tout bas, puis on va lui tourner le dos. Hein ? Je vais d'abord lui fermer son gros œil, là.
È colpa del respiro, fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. È colpa della bocca, stupida come me. E del tuo corpo che la tocca.
quando ridi e piangi e ti ricalci e spingi cercando di guarirmi quando tu mi stringi sei in grado di ferirmi ed io non so
Quando, du musicien italien Andrea Laszlo De Simone, et l'Italie encore, avec une femme considérée comme l'une des plus grandes comédiennes de son temps. Elle s'appelait Eleonora Duse. Elle est née au milieu du 19e siècle et fut souvent réduite à son histoire d'amour avec Gabriele D'Annunzio, écrivain qui fut un des soutiens de Mussolini au début des années 20. Le cinéaste Pietro Marcello consacre un film aux dernières années de cette femme, à sa renaissance et à sa chute. Valeria Bruni Tedeschi interprète Eleonora Duse et Noémie Merlant joue sa fille, pieuse, mariée, mère de deux enfants. Au début du film, Eleonora a tout perdu et tombe malade. Sa fille accourt à son chevet, elles ne se sont pas vues depuis des années. L'affaiblissement de sa mère est peut-être l'occasion pour la fille de lui faire quitter le monde du théâtre et du péché. Extrait de Duse de Pietro Marcello avec Valeria Bruni Tedeschi et Noémie Merlan en italien dans le texte.
La tua salute è molto fragile. E non hai più soldi. Ma non è un problema. Non hai bisogno di tornare in quel mondo di peccatori. Sono tutti ipocriti.
Tu pensi?
Sì. Si vogliono approfittare di te. Ma ci sono io. Vieni a vivere con noi, con i bambini.
Noémie Merlan voulait être de cette histoire celle d'Eleonora Duse pour Valeria Bruni Tedeschi, pour L'Envol et Martin Eden, deux films du cinéaste Pietro Marcello qu'elle avait adoré.
Et ensuite, parce que je ne connaissais pas Eleonora Duse, je me suis dit, mince, encore une femme qui a d'ailleurs révolutionné le jeu d'acteur et le théâtre en Italie, mais pas que. Que moi je ne connais pas et ça m'énerve. Du coup, je me suis dit c'est important de participer à des œuvres comme ça qui remettent en lumière des femmes avec des parcours où justement elles ont consacré leur vie à l'art et à la création au détriment parfois de leur vie de famille, comme là justement avec moi je joue sa fille Enrichetta Duse et Enrichetta a du mal à accepter que sa mère, c'est pas que sa mère ne l'aime pas, mais sa mère a besoin pour vivre de ce qu'elle aime et de l'art, quoi. Donc je trouve ça intéressant parce que souvent on montre des personnages masculins qui ont fait justement des grandes carrières, mais on se pose pas la question de justement de leur rapport à leurs enfants et tout ça. Et on a moins de récits de femmes qui ont fait ce choix-là, d'être un peu moins présents pour leurs enfants et de construire leur carrière. Donc voilà.
Vous avez joué en anglais, aux côtés de Kate Blanchett dans Tar, aux côtés de Kate Winslet dans le biopic de Lee Miller. Là, vous jouez en italien dans Eleonora Duse. Comment, d'une langue à l'autre, ça change votre jeu ?
Après, l'italien, c'est un peu différent parce qu'au départ, je ne comprenais même pas ce que je disais, quoi. Donc, je ne parle pas du tout italien. Parfois, c'est plus facile d'entrer dans un personnage quand on doit parler une autre langue en même temps. Je sais pas comment dire. C'est comme quand on saute dans un costume qui est si. Il y a des films de tous les jours, qui se passent actuellement, où les costumes ressemblent déjà à ce qu'on met dans la vie. Et parfois, c'est un film d'époque où là, d'un coup, on a un costume et du coup, tout de suite, on rentre plus facilement dans le personnage. Avec la langue, il y a un truc un peu pareil. À partir du moment où c'est une autre langue, ou alors même si c'est un accent, une manière très forte de parler, parce que on a un personnage très caractérisé, ça aide en même temps.
Le film prend le parti de raconter les dernières années de la vie, oui, d'Eleonora Duse. Est-ce que vous vous êtes déjà projeté en disant, plus tard, dans des années et des années, j'aurais envie de ça?
Oui, ça m'arrive de me projeter. Mais c'est ça qui est très beau dans ce personnage, c'est que c'était justement une actrice et ça se faisait pas à l'époque, quoi, d'apparaître sur scène avec ses cheveux blancs, pas de maquillage, de vraiment être dans le cœur de la réalité, de la sincérité, de se mettre à nu vraiment, quoi. Et moi, j'adore ça, je trouve ça tellement plus intéressant. Après, vraiment.
dans la vie, ça me fait peur, parce que quand la vieillesse, ça veut dire qu'on s'approche de la mort. Alors après, on pourrait dire, bah justement, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a réussi à vivre longtemps, donc c'est une chance, oui. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me fait peur. Donc j'essaie de pas trop y penser. Moi, je m'imagine, en tout cas, je m'imagine pas arrêter de créer. Donc j'espère que je vais créer jusqu'à mon dernier souffle. Et aussi accompagner des plus jeunes, comme m'a pu faire mon père, par exemple, de chercher, de transmettre ou d'aider à réaliser qui on est.
Le film, il pose aussi la question des relations entre un artiste et le pouvoir.
Oui.
La voix que vous avez choisi d'écouter, c'est la voix de Charlie Chaplin.
Oui.
Parce que vous avez voulu faire entendre un extrait de son film Le Dictateur.
Oui.
Et notamment le discours final. Donc ce dictateur, il est évidemment très largement inspiré d'Hitler, et son double est un barbier juif.
Oui.
Et finalement, dans la toute fin du film, c'est ce barbier juif, dans le costume exact du dictateur, qui va faire ce discours. Et ce discours, on va en écouter un extrait que voici. Vous, le peuple, avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Au nom de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir, mais ils mentent. Ils ne tiennent pas leurs promesses, jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais réduisent le peuple en esclavage.
C'est beau, hein, rien que son énergie, elle donne des frissons. Bah oui, je pense que c'est des personnages comme ça que j'ai découvert assez jeune. Enfin, assez jeune. C'est des amis du cours Florent qui m'ont fait découvrir des films, des choses extraordinaires, dont ça. Et ça m'a tout de suite frappée. Ça a un peu donné le là de mon envie de faire du jeu d'acteur pour essayer de tendre vers le meilleur, quoi. Parfois, on se dit, quand on est acteur ou artiste tout court, qu'on fait ça pour essayer de changer les choses, mais peut-être que c'est aussi penser qu'on se donne un trop gros rôle, dans le sens où ça, peut-être pas, en fait. En tout cas, on se raconte ça. J'ai la sensation quand même que si, parce que je dis ça par rapport aux messages que je peux recevoir, ou même moi, des films que j'ai pu voir qui m'ont changé la vie, ou qui ont changé mes comportements, mes manières de penser. Donc je pense qu'il y a un vrai impact chez l'être humain quand il regarde des images, qu'il écoute des choses, qu'il est bombardé soit de violence ou soit de valeur. Il y a un vrai impact, je pense.
Il y a un film qui a changé tout pour vous.
Oui.
C'est Portrait de la jeune fille en feu,
tout à fait,
de Céline Sciamma. J'ai le son du début.
Du film?
Ouais.
Incroyable.
Vous voulez l'écouter ou pas?
Ouais.
Allez.
D'abord mes contours.
Dans ce film, Noémie Merlant est Marianne, artiste peintre.
La silhouette.
Elle se rend sur une île bretonne pour faire le portrait d'une jeune femme.
N'allez pas trop vite.
La peintre et son modèle tombent amoureuses, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle.
Prenez le temps de me regarder.
Au début du film, Marianne donne un cours.
Regardez la position de mes bras. Mes mains. Qui a mis là ce tableau? Je l'ai trouvé dans la remise. Il ne fallait pas?
Non.
C'est vous qui l'avez peint?
Oui. Il y a longtemps.
Quel en est le titre?
Portrait de la jeune fille en feu.
Bah ça a changé ma vie, oui. C'est...
Ça vous plonge dans une rêverie, on dirait.
Ouais. Ah ouais, c'était magique. C'était magique. C'était vraiment... On était entre femmes, on habitait dans une maison tout ensemble. Pendant le tournage, c'était trop bien.
Qu'est-ce qui était si bien?
L'ambiance était douce. C'était comme si tout ce qu'on essayait de faire passer dans l'image et à travers cette œuvre, on le vivait réellement sur le plateau. Et c'est pas toujours le cas, parce que souvent, on veut dire des trucs. Et donc, on se met dans des états, et les tournages sont difficiles parfois, donc à l'opposé de ce qu'on veut partager. Et là, tout était en osmose, quoi. Puis ma rencontre avec Adèle et Céline,
Adèle Haenel et Céline Sciamma, donc.
Oui, Adèle Haenel et Céline Sciamma, et une prise de conscience de beaucoup de choses par rapport à l'histoire des femmes, comment on exprime et comment on essaie de se connecter à nos désirs, comment on est empêché, comment on peut résister, comment... C'est un film qui m'a donné beaucoup, enfin un film et des rencontres qui m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de confiance en moi.
Comment ça vous a donné confiance ?
D'une, il y a eu une vraie reconnaissance sur le film et sur aussi mon jeu, quoi. Donc déjà, ça m'a donné un peu plus d'aplomb, de confiance en tant qu'actrice. Mais c'est aussi que j'ai, grâce à ce que raconte le film et ma rencontre avec Céline et Adèle, qui sont des femmes très courageuses, on l'a bien vu. Moi qui ai toujours un peu peur de m'exprimer ou même je voulais réaliser tout et j'ai toujours eu peur et machin. Et en fait, j'ai été poussée par ces femmes à vraiment me déployer, quoi. Sans forcément chercher à plaire ou à m'excuser, quoi. Donc c'est fort dans une vie de rencontrer des gens comme ça.
Et ça raconte aussi une relation entre quelqu'un qui crée et son modèle.
Oui.
Puisque c'est une peintre qui va peindre une autre femme. Mais ça pourrait raconter le cinéma.
Il y a un vrai parallèle. Donc, il y a aussi une notion dans le jeu d'acteur, en tout cas, qui, c'est vrai, même au cours Florent à l'époque, c'est ce qu'on nous apprenait. C'est par la souffrance qu'on arrive à sortir des choses du ventre de l'acteur, de quelqu'un. C'est un peu le metteur en scène qui fait tout, parce qu'il va secouer ce comédien pour aller chercher ce qu'il veut. Alors que, en fait, avec Céline, j'ai appréhendé complètement différemment le métier. Où on se rend compte qu'en fait, c'est une danse à deux. C'est-à-dire que quand on a justement beaucoup plus d'espace et de douceur dans l'espace de création, l'acteur va pouvoir proposer plein de choses et des choses auxquelles le réalisateur n'avait pas pensé. Et va même parfois guider le réalisateur ou la réalisatrice vers une idée qu'il n'avait pas. Et du coup, ça donne confiance.
Extrait de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec Adèle Haenel et Noémie Merlant.
Je me souviendrai de la première fois où vous avez ri.
Vous avez mis du temps à être drôle.
C'est vrai. J'ai perdu du temps.
Moi aussi, j'ai perdu du temps. Je me souviendrai de la première fois où j'ai eu envie de vous embrasser.
Quand était-ce ?
Vous n'avez pas vu ?
À la fête, autour du feu.
J'en avais envie, oui. Mais ce n'était pas la première fois.
La vie en rose par Grace Jones.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd, c'est haut que sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Quand il me prend dans ses bras, il vas où, là-haut?
T'es un con. Voilà. Va voir ta mère, va la voir, va tout lui dire, mais tu ne vois plus. C'est fini.
Tu m'as dit que j'étais un con, là?
Oui, t'es un con.
Tu m'as dit que j'étais un con?
Oui, t'es un con.
Noémie Merlon a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film, L'Innocent, de et avec Louis Garrel. L'histoire d'Abel, un fils qui s'inquiète du mariage de sa mère avec un certain Michel. Michel est un ancien détenu, pas spécialement rangé des voitures. La preuve, Michel propose à Abel de faire un braquage. Et Abel décide de mettre son amie Clémence dans le coup. Le plan exige qu'il fasse semblant de s'engueuler dans un resto-route. Et Clémence adore l'idée. Elle se donne à fond. Clémence, c'est Noémie Merlon.
Ah ! Putain, tu m'énerves ! C'est parce que j'ai baisé avec tous ces mecs que t'es comme ça, hein ? Que tu me fais chier là devant tout le monde ?
On n'est pas tout seul, ok ? Tu te calmes.
Je suis désolée, je suis comme ça, j'ai une libido très développée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Calme-toi, parle pas si fort, parle pas si fort.
10 ans qu'on est ensemble et tu trouves pas un petit truc à dire ? Un truc un peu sincère, je sais pas, un truc qui sort de toi, un truc qui... Je t'inspire rien ?
Si, si, tu m'inspires que beaucoup de choses.
Tu te fous de ma gueule, là ?
Non, je me fous pas ta gueule, non ?
Qu'est-ce qu'on a rigolé ? Qu'est-ce qu'on a rigolé ? J'avais pas beaucoup confiance en moi là-dessus, parce que justement, on m'avait un peu mis dans quelque chose de plus dur et dramatique et machin. Et c'est marrant, parce que du coup, on se dit, ah, une froideur, quelque chose de très glacial, machin. Ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a fait un bien fou, et j'ai envie d'en faire plus, des comédies, quoi. Mais c'est une autre énergie, c'est un autre enfin c'est presque un autre travail, je trouve. On va pas chercher, ouais, on va pas, c'est pas du tout le même rythme. La fatigue n'est pas la même. Je trouve qu'on est plus fatigué à la fin d'un tournage de comédie, mais lui c'est très particulier parce qu'il est acteur, donc en fait c'est encore autre chose dans sa manière de diriger. Il trouve les bons mots, il sait quand il faut aussi pas trop parler et juste vas-y tu la refais. Je sais que t'as compris où il fallait aller, mais il faut le temps d'y aller, quoi. Parce qu'il y a des réalisateurs où ça peut leur faire peur. Parfois, quand on cherche, on est dans des endroits pas terribles. Mais en tant qu'acteur, on sait qu'on doit passer par là. Et donc, souvent, les gens comme Louis savent par où on doit passer. Et donc, on est un peu plus en confiance. Et on s'autorise un peu plus, de, parfois, de faire de la merde. Quoi, parfois, on jouait faux, on se disait « merde, voilà, on essaye autre chose ». Mais parce qu'il y avait cette idée de prendre des risques et ils nous avaient fait des grimaces, mais encore pire, encore plus... crie. Et moi, par exemple, on me disait souvent, non, crie pas trop, puis pars pas trop dans les aigus, c'est pas... Et lui, au contraire, c'était, mais pars dans les aigus, vraiment, mais dépasse de partout, quoi. Et c'est assez...
kiffant.
Assez kiffant, ouais.
Ah, Ruby, Ruby, un verre d'eau.
Élise, tout va bien.
Non, je peux... Mais si.
Tu peux respirer.
Respire.
Voilà.
Respire.
Je respire. Je vous jure, je respire.
Voilà.
Bah oui, faut respirer.
Je n'ai jamais
fait ça.
Donc arrête de me dire, respire, je peux pas respirer. Est-ce que t'as fait la route depuis Paris toute seule?
Une autre comédie dont Noémie Merlon est la comédienne et réalisatrice aussi, Les Femmes au balcon, c'est le titre et c'est son deuxième film. Les Femmes au balcon sont trois, Ruby, Nicole et Lise. Elles se retrouvent à vivre ensemble et se rincent l'œil en matant le beau gosse qui habite en face. Il les invite à prendre un verre, Ruby reste avec lui et ça tourne très mal, pour elle comme pour lui. Farce, film fantastique et gore, avec pénis coupé en tranches, Les Femmes au balcon mélangent les registres. Noémie Merlon interprète Élise, comédienne blonde platine, accueillie par Nicole et Ruby.
Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai senti un truc monter, j'ai terminé le tournage, je suis partie, j'ai voulu rentrer à la maison, j'ai pas réussi, j'ai pris la voiture de Paul et je me suis enfuie.
Et les clés, elles sont où?
Depuis...
Elle a dû les laisser sur contact, je la connais, j'y vais.
Mais Ruby, t'as pas ton permis?
Non, mais...
Je n'arrive plus.
Mais si.
Non, attends.
Élise, attends.
Non, je rigole pas.
Je rigole pas.
Pff, respire avec moi. Tu respires avec moi, je t'écrase, c'est normal, ça va faire du bien à ton corps, tu vas te connecter. C'est comme une vague. Tu l'accueilles, voilà, tu l'accueilles. Elle est là.
Le moteur de départ des Femmes au balcon, c'était quoi?
La vie. La vie réelle, cette sensation que j'ai eue quand je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon père quand il a eu son accident et que je transformais ça après dans la création et ça me... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'aidait, quoi, qui me... C'est pareil, en fait, c'est des choses que j'ai pu vivre dans la vie ou que des gens autour de moi proches ont pu vivre et donc j'ai envie de leur donner du sens et d'essayer que ça, ouais, que ça serve à quelque chose, dont créer du dialogue, pouvoir...
en tant que victime aussi, rire, se moquer. Voilà, c'est un droit qu'on laisse pas suffisamment aux victimes parce qu'on leur dit que si elles rigolent après qu'elles vivent, qu'elles sont pas vraiment victimes du coup. Donc c'est des choses qui me semblent importantes. Et donc oui, ça part de ma vie réelle quoi. Alors après, je n'ai pas tué le voisin d'en face, mais justement, j'ai besoin, j'ai pas envie de calquer la réalité. J'aime vraiment l'idée de la fiction. Et j'aime le mélange des genres qu'on retrouve beaucoup dans les films coréens, par exemple, japonais, ou alors dans le cinéma d'Almodovar. Et le mélange des genres, je trouve qu'il permet énormément de... Il nous donne le droit de dépasser, il nous donne le droit d'oser, de presque de faire des erreurs. Enfin, c'est même pas tant des erreurs, mais de se déployer, quoi. Et c'est pour ça que j'aime le mélange des genres avec humour, gore, fantastique. Et c'est des choses dans ma vie qui sont très présentes depuis toujours, même petite. Hein. Il y avait déjà l'humour, parce que ma famille a beaucoup d'humour, y compris ma sœur. Le gore, parce que je regardais que des films gore avec ma sœur, mais depuis toute petite. Ce monde fantastique que je mets aussi dans le film... C'est aussi mon langage, c'est aussi le langage de ma famille, quoi. Donc en fait, c'est tous ces mélanges-là pour moi sont un tout. Pour d'autres personnes, non, mais pour moi, c'est vraiment un ça va ensemble, quoi. Et je trouve que la vie souvent est il y a beaucoup de mélanges. On passe de quelque chose d'horrible et souvent dans les moments horribles qui se passent, il y a quelque chose de très drôle qui se passe en ce moment. En même temps, il peut y avoir de l'humour ou des choses complètement inexpliquées ou des choses magiques. Ou... Je trouve que ouais, la vie, c'est... Pour moi, la vie, finalement, ressemble plus à un film de genre, presque.
Le tube que Noémie Merlant, comédienne, a choisi ce matin, c'est elle, Mylène, comme elle dit, Mylène Farmer et sans contrefaçon.
J'adore ce début là. Quand j'étais petite, cette voix, quand la chanson commençait, j'avais peur. Et sur la pochette de l'album, parce que j'étais vraiment petite, quand j'ai commencé à écouter l'album qui est sorti en 88, à l'arrière de l'album, il y avait une poupée qui me faisait peur. Et en même temps, j'adorais avoir cette sensation de peur. Et quand je mettais cette chanson, j'avais l'impression qu'au début, c'était cette poupée qui parlait et ça me faisait peur, mais en même temps, j'adorais. Donc... J'ai vraiment des souvenirs, mais très, très sensoriels, quoi. Avec, je me vois devant la petite vitrine où tous les CD étaient rangés. Je me vois, je me sens prendre le disque, regarder la pochette derrière. Oh, je vais mettre Mylène. Et je mets Mylène et c'était une de mes préférées, celle-ci. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que ça me fascinait. Cette femme qui disait qu'elle était un garçon. Je pense que ça me fascinait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Après, j'étais vraiment trop petite pour analyser quoi que ce soit, mais je me sentais bien avec cette femme.
Puis qu'il le dit avec beaucoup de légèreté.
Oui, qu'il le dit avec de légèreté.
Avec joie, avec une certaine gaieté, quoi.
Avec joie, gaieté, ouais, exactement. C'est marrant parce que ça fait un parallèle avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que Mylène, c'est vraiment justement une artiste qui déborde, et il y a presque du mélange des genres dans ses propres chansons. Il y a du fantastique, il y a du gore, ça fait peur, enfin, il y a de l'humour, enfin, c'est un personnage elle-même avec tous ses costumes et tout ça. C'est une femme qui prend de la place et j'adore, quoi. C'est osé, même ses clips sont hyper osés et tout. Je pense que c'est pas pour rien que c'était une de mes préfs quand j'étais petite, quoi.
C'était même assez provocateur.
Oui, mais pour moi, du coup, en tant que petite fille, vu que je l'ai vue très jeune, je dis, c'est normal. Et c'est chouette, quoi.
This Is et Théodora pour Mélodrama.
Blessé, baisé, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Oh, je pleure surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je suis dans le bulle d'hiver. Je suis dans un étoile, mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air?
Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation.
Noémie Merlant, Rebecca Manzoni, Totémique sur France Inter.
C'est mal dit ?
Non, c'est super. On termine avec votre carte blanche ?
Ouais, j'adore, j'ai mis du temps à la retrouver.
Qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est quand mon père était jeune, il a fait un stage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il était un peu autodidacte et tout. Il n'a pas eu de diplôme, mais il a fait un stage pour une entreprise dans laquelle il a travaillé. Donc, il est tout jeune, il fait ce stage avec d'autres. Et eux-mêmes ont une espèce de carte blanche. Ils ont des exercices un peu. On leur demande de... Je ne sais pas exactement l'intitulé des exercices, mais par rapport aux réponses qu'ils donnent, on peut s'imaginer un peu quoi. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé il y a longtemps et que moi, j'adore écouter. Parce que dans la carte blanche, c'était vraiment une voix qui m'accompagne, qui m'a influencée. Et... la voix de mon père, alors j'ai pas la voix de ma mère, malheureusement j'ai pas de... j'aurais pu la mettre aussi, mais... ouais, pour moi c'est une voix où... Enfin, vous allez voir ce qu'il dit, il y a de l'humour, il y a un vrai rapport à la vie, quoi, aux détails, aux choses, aux gens, à la nature, enfin un truc qui lui ressemble et qui m'étonne pas en même temps de... Je sais pas, je trouve ça magique, quand j'écoute ça, je trouve ça magique. Peut-être juste parce que c'est mon père et que vous n'allez pas trouver ça magique, mais moi, je trouve ça magique.
On l'écoute ?
Oui. Pour que vous ayez un peu une idée de sa voix et de sa manière de voir la vie et de partager les choses. Donc, c'est un peu comme ça qu'il a partagé les choses avec moi. Allez, je lance. Ça, c'est sa carte blanche, qui devient ma carte blanche.
Ce matin, M. Bern a terminé la matinée en nous disant « Bon, Il va falloir faire quelque chose d'important pour terminer ce stage. Quelque chose, un one-man show, quelque chose à deux. Quelque chose qui marque. J'ai senti qu'il attendait de nous un peu la consécration de notre vie éphémère de stagiaire. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de parler de choses plus importantes, de la vie, de l'amitié, de l'amour? Mais je me suis rendu compte que les mots ne venaient pas. Un peu comme un arc-en-ciel. C'est beau un arc-en-ciel quand on le voit dans le ciel, mais quand on prend une photo, ça rend jamais la même chose. Alors je me suis dit, finalement, ces petites choses, cette petite passion, la pêche, peut-être que c'est pas si mal, c'est tout petit, mais peut-être qu'en même temps, c'est de ces choses-là qui aident à comprendre les gens et à les aimer. Et j'ai envie qu'on m'aime, tout comme j'aime aimer les autres aussi. Alors j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à la pêche. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est finalement? C'est toutes ces choses très techniques, la pêche à la traîne, la pêche au filet, au carrelet, c'est tout ça. C'est tout ça, mais c'est aussi le petit rouge-gorge qui s'est posé un matin sur ma botte. Il est resté 10 minutes. C'est aussi le jour où je me suis cassé la figure dans l'eau, au bord de la mer, au milieu de tout le monde, on a bien rigolé ce jour-là. La pêche, c'est les poissons, mais c'est aussi le rire, l'amitié. Et en conclusion, finalement aussi, je crois que j'étais prédestiné à pêcher, parce que je m'appelle, bien sûr, Merlan, je suis du signe du poisson, et puis ma fête, c'est le 1er avril.
Ma fête, c'est le 1er avril, ouais. Et il a un poisson, ouais, scotché dans le dos. Ouais. C'est magnifique.
C'était quand même un stage d'immobilier d'entreprise. Lui, il est en train de parler d'amour, d'amitié, de... Je sais pas, je trouve ça... C'est lui, quoi. Je trouve ça très beau, quoi. Finalement, heureusement qu'il a été filmé, parce que ça permet juste d'avoir filmé aussi la réalité de la vie des gens, comme ça.
Mais vous l'avez fait, quoi. Vous l'avez fait, vous, puisque, ouais, vous avez fait un documentaire.
Bah, je pense exactement pour ça, parce que je vois à quel point c'est important d'avoir des traces de vie, quoi. De voir comment les gens vivaient au cœur de l'intime, de leur vie, de le... je sais pas comment dire. Ça me paraît important d'avoir ça. Et donc oui, je filme, et je les filme encore... aujourd'hui, justement, maintenant que tout est différent, et en même temps, tout est différent et pas différent, parce qu'il a toujours cet humour, il a toujours cet amour des gens, il a toujours ses petites blagues, et en même temps, son côté très poétique, comme quoi les choses changent, mais pas tant que ça, et c'est justement pour ça que je veux les filmer, quoi, parce qu'ils ont énormément de choses à raconter, à transmettre, j'ai l'impression, quoi. J'ai l'impression.
Merci beaucoup, Noémie Merlan.
Merci à vous.
Noémie Merlan est à l'affiche de Douzé, film de Pietro Marcello consacré à la comédienne Eleonora Douzé avec Valeria Bruni-Tedeschi. Anaïs Reinhardt a réalisé cet épisode de Totémique avec Enzo D'Hospital et Laurent Baudouin ce matin. Perrine Malinge co-programme nos invités, Ilinka Negulesco prépare l'émission et JB Audibert prend soin de notre BO. La semaine prochaine, rendez-vous sur la scène d'un café-théâtre avec Malik Bentala. La suivante, ce sera dans un conservatoire avec l'écrivaine Agnès de Sarthe.